long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead.
Always, always, always.
Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on commence, j'en profite pour vous présenter ce livre que je viens de recevoir, Basket, 90 ans de basket en Ile-de-France, aux éditions Amphora. C'est un livre qui a été écrit par Julien Guérineau. Alors si ce nom vous dit quelque chose, c'est pas impossible ni anodin. Voilà, il travaille à la Fédération, à la communication depuis longtemps, mais c'est surtout un ancien journaliste, enfin c'est aussi un ancien journaliste avec une très belle plume. Ce livre est vraiment sympa, encore une fois, j'ai juste eu le temps de le feuilleter, de picorer quelques chapitres par-ci par-là. C'est sur l'histoire du basket francilien, département par département, et il y a pas mal de belles histoires. Par exemple, pour Paris, on va parler de Dubuisson ou bien du playground culte de Clignancourt avec Mustapha Sonko. Pour le 92, on va parler... par exemple de Georges Eddy, enfin pour l'Ouest parisien plutôt, pas le 92, de Georges Eddy ou encore de Victor Wembanyama. Il y a pas mal de photos d'archives, des articles, des portraits, des interviews même par-ci par-là, et aussi des informations factuelles sur le basket dans chacun des départements qui forment l'Île-de-France. Voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai fini de le lire. Donc 90 ans de basket en Ile-de-France aux éditions Amphora, un livre signé Julien Guérineau, à qui je passe le bonjour. Voilà, si vous êtes fan de basket et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder ça. Voilà pour la petite présentation du livre. Aujourd'hui, on a de la chance parce qu'avec Shai, on est rejoint par Frédéric Yang, que vous connaissez. Maintenant, on ne le présente plus. On a eu la chance de l'avoir à plusieurs reprises cette saison et on a sollicité Frédéric parce qu'on va parler de coaching. Voilà, on sait que Fred est un passionné de basket, bien sûr, mais plus précisément de coaching dans toute la palette de ce que ça peut représenter, des aspects techniques aux aspects tactiques. Et comme ce matin, on a appris le nom du nouveau coach de l'année, Marc Daigneault, on s'est dit qu'on allait faire un focus sur les coachs. Comment ça va, Fred ?
Très très bien. Et vous avez toujours la bonne idée de m'inviter quand le Magic gagne.
C'est ça. C'est magnifique. C'est pour ça, j'ai demandé à Théo pour provoquer la réussite, pour que le Magic domine les Cavs jusqu'au bout. Voilà.
Pour l'instant, ça fait 2 partout. On croise les doigts pour que la série se termine en 4-2 pour le Magic. Mais bon,
ça va le faire. C'est pas le thème de l'émission. Ça va le faire.
Si vous nous écoutez en plateforme, sachez que Fred a mis son plus beau maillot du Magic sur le dos là, pour représenter la franchise floridienne. Voilà ce qu'on s'est proposé de faire. En fait, on va faire une draft de coach. Alors, encore une fois, on est des amoureux de basket, mais on n'est pas des professionnels du basket. On n'est pas là pour mettre les bons points, les mauvais points. On va simplement partir du principe, imaginons qu'on soit GM d'une équipe. Quel coach on voudrait prendre dans l'ordre, un peu comme on avait fait pour des joueurs ou autres. Et puis, ça nous permettra de présenter un petit peu des profils de coach, les comparer peut-être, de voir dans quel type de circonstances on les a sentis les plus à l'aise ou les plus efficaces. Voilà l'idée, parce que c'est vrai qu'en play-off, c'est le moment de l'année peut-être où on parle le plus justement de leur travail, des fameux ajustements, parfois peut-être même qu'on en fait un petit peu trop sur ces fameux ajustements. Une petite question générique pour commencer, Fred, toi sur ce début de play-off, est-ce que justement quand on parle d'ajustements, il y a des choses qui t'ont marqué, que ce soit des entraîneurs ou des équipes qui à ton sens ont vraiment bougé des choses par rapport à ce qu'on était habitué à les voir faire?
Là on voit quand même pas mal d'ajustements défensifs. Je pense que la série Mavs Clippers montre bien ça. Il y a eu vraiment un ajustement de la part de Dallas, d'ailleurs, sur le match 2. Après, bien sûr, qu'il y a eu la blessure de Kawhi Leonard qui a joué un blessé, on le sait. Mais globalement, tout ce que je vois en termes d'ajustement défensif, ça me plaît. Ça m'a moins plu, par contre, ce qu'a fait Phoenix contre Minnesota, parce que justement, on les attendait plutôt sur des ajustements offensifs qui ne sont pas complètement arrivés, donc c'était assez difficile. Mais clairement, les playoffs, c'est là où on voit les petits détails, en fait. C'est ces petits détails qui vont faire la différence parce qu'il y a des faiblesses qui vont être exploitées à 100%, que ce soit en attaque ou en défense. Et on voit là aussi où les entraîneurs... Il y a aussi Eric Spoelstra. Il y a vraiment eu cette série intéressante entre le Heat et Boston, parce qu'il y a eu des ajustements entre le match 2 et le match 3 de la part des deux entraîneurs. Donc, c'est vraiment génial. Quand on adore, quand on aime le basket et quand on adore la tactique, c'est vraiment génial de suivre les playoffs. C'est hyper intéressant toujours à regarder. et à analyser, bien sûr.
Ouais, je partage ton avis, notamment sur les séries que t'as listées. C'est vrai que la série Mavs, Clippers, au-delà de l'historique, au-delà du niveau des joueurs, ça a été passionnant sur cet aspect-là dès le début, parce qu'en fait, voilà, on va revenir peut-être par la suite, mais Tyronn Lue a fait des choix très forts qui ont forcé Jason Kidd à changer de son côté. Donc là, c'est un petit peu, effectivement, une des séries un petit peu ping-pong où on attend la manière dont chaque entraîneur va s'ajuster par rapport à l'autre. Je vous propose qu'on se lance tout de suite dans le principe de cette draft. Allez, honneur à l'invité. Fred, on va te laisser le premier choix. Comme je suis grand seigneur, je vais laisser Chat y choisir en deuxième et puis je fermerai le bal, sauf si tu veux trader ton premier pick contre le troisième comme les Sixers avaient eu la bonne idée de le faire avec les Celtics, comme tu veux.
Non, je vais assumer, mais c'est vrai que c'est assez difficile là quand même. Je regarde ma liste en fait, je me suis fait une liste avec 4 catégories, okay. et c'est difficile de choisir. Je pense que je vais quand même aller avec Eric Spoelstra. Donc pour mon premier choix de draft, je pense vraiment qu'en termes d'ajustement, on parlait de ça, bah c'est l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement. Vraiment, parce qu'on l'a vu, hein, lui, c'est sur les playoffs qu'on voit vraiment toutes les qualités d'Eric Spoelstra. Et sur la saison régulière, il arrive à se débrouiller pour que le Heat se qualifie à une place honorable, même si ça passe beaucoup du play-in ces dernières années. Mais on l'a vu l'année dernière, c'était exceptionnel. Enfin, et même sur les années d'avant, à chaque fois, il fait des ajustements qui causent énormément de problèmes aux coachs adverses. Donc, Eric Spoelstra, je trouve qu'il est complet. Il est complet, que ce soit dans sa manière aussi de gérer ses hommes. Lui, il n'a pas peur de rentrer directement dedans. Enfin, on s'en souvient, l'année dernière, avec Jimmy Butler. C'est vraiment... vous parliez beaucoup de heat culture, tout le monde parle beaucoup de cette heat culture. Elle, bien sûr, il est aussi bien épaulé par Pat Riley, par tout ce qui a été fait et construit autour de Miami. Donc il est dans les meilleures dispositions pour coacher comme il aimerait coacher en fait. Ça c'est vraiment la chose qui est le plus important quand on est entraîneur, c'est d'avoir toute la latitude de pouvoir entraîner comme on souhaite vraiment entraîner et justement le fait qu'il puisse autant faire des choix sans qu'il soit trop contesté en interne. Alors, franchement, ça, je pense que ça joue beaucoup et je le trouve vraiment, comme j'ai dit, vraiment complet, que ce soit tactiquement, que ce soit dans la gestion de ses joueurs. Le fait que des 12e hommes aient de l'impact en play-off, c'est pas un mystère en fait. C'est jamais un mystère quand des joueurs comme ça qui n'ont pas beaucoup joué durant une saison aient un impact en play-off, c'est pas du hasard. Quand on voit Duncan Robinson, parfois il va beaucoup jouer, parfois il va moins jouer. Mais l'année dernière, il a eu un impact incroyable lors des play-offs. Je pourrais sortir d'autres joueurs, Highsmith par exemple, qui a aussi un impact incroyable. Donc voilà, je pense que vraiment en termes du côté complet en fait d'un entraîneur, je vois pas meilleur aujourd'hui qu'Eric Spoelstra.
C'est vraiment intéressant parce qu'en fait on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast avec Chai, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a parfois différents, il y a des coachs qui correspondent à différentes catégories en fait, ceux qui sont bons pour la reconstruction, ceux qui sont bons pour gérer les égos, ceux qui sont bons d'un point de vue tactique, et je te rejoins complètement Fred, moi il était tout en haut de ma liste aussi parce que je pense qu'Eric Spoelstra il coche absolument toutes les cases en fait, et il a coaché des superstars quand il y avait le Big Three à Miami, il a coaché des équipes de 100 grades entre guillemets comme quand ils vont en finale dans la bulle en 2020, on l'oublie, il y a trois rookies qui jouent des rôles majeurs dans cette équipe, Kendrick Nunn, Tyler Hero, Duncan Robinson, donc il sait aussi former les joueurs. Et moi, ce qui continue à m'épater avec cet entraîneur que j'adore, au-delà effectivement des ajustements, au-delà de, des défenses, des changements de défense qu'il peut proposer, c'est le fait que quel que soit le joueur qui sort du banc, il va être prêt à jouer. Tu parlais de Duncan Robinson, l'an dernier, il y a tout un passage où il ne joue plus du tout, quoi. Il est sorti de la rotation, et quand il revient sur le terrain, il est prêt à jouer et à être efficace. Et ça veut dire qu'il y a tout le travail de l'ombre auquel on n'assiste pas, hein, qui se passe à l'entraînement, travail individuel, travail collectif, même travail psychologique en fait, dans ton relationnel avec les joueurs, qui fait que ces mecs-là sont prêts à rentrer sur le terrain et être performants. Et moi, je continue de le dire, je pense sincèrement qu'Eric Spoelstra, c'est le meilleur entraîneur de basket que j'ai vu, moi, de ma vie, sur cet aspect complet, quoi. Et puis maintenant, en plus, la durée, où c'est le deuxième coach qui est en place depuis le plus longtemps après Greg Popovich et qui est parti, je pense, pour peut-être pouvoir rivaliser même avec le record de Pop. Ouais, incroyable.
Il y a toute la période aussi avant que LeBron arrive, avant qu'il y ait la formation du Big Three. Où il était plus coach débutant, il était encore jeune, mais là aussi il a développé des joueurs qui se sont avérés après être importants dans les campagnes. Donc il a dans cette optique de prendre un coach qui est à la fois capable de coacher des stars et des sans grade, des situations où il est attendu jusqu'au titre, et d'autres où c'est de la construction, du développement. Bah, je suis d'accord, je pense qu'on aurait, à mon avis, on aurait pris tous les trois Spoelstra en un, je pense.
Ouais, et puis pour finir sur Spo, en fait, il y a aussi chose qui est dont on s'en rend pas forcément compte, parce qu'en fait, tu peux être le meilleur entraîneur du monde, avoir les meilleures idées du monde, tu pourras pas aller loin si tes joueurs comprennent pas ce que tu veux les amener à faire et s'ils adhèrent pas à 100% au projet. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Fred, là, sur la série entre le Heat et Boston, ce qui était admirable dans le match 2 notamment, avec les ajustements faits par Miami, c'est de voir à quel point tous ces joueurs étaient sur la même longueur d'onde. Et des mecs comme Nikola Jovic ou Tyler Herro, qui sont pas réputés pour être avant tout des bons défenseurs, l'une des raisons du succès du Heat sur ce match là c'est justement qu'ils ont adhéré à 2000% à ce qui leur a été demandé, et défensivement ils ont fait un match hyper fort. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Fred, et ça veut dire qu'il y a des qualités de communication de l'entraîneur envers ses joueurs qui fait que les joueurs non seulement comprennent ce qui est attendu d'eux, mais en plus adhèrent au projet et finalement se l'approprient pour en tirer le maximum.
Ouais, je suis d'accord. Et ben, justement, pour parler de ce match 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui auraient raté ça, il y a eu des ajustements défensifs de la part du Heat sur ce match. Et à Boston, c'est l'équipe qui prend le plus de 3 points hein, de la NBA. Et sur ce match, ils n'en ont pas pris beaucoup. Ils en ont pris, il me semble, 15 de moins que leur moyenne habituelle. Et clairement, c'est le schéma défensif du Heat qui les a poussés justement à plus tenter des tirs dans la raquette. Et ça, c'est pas du tout dans leurs habitudes. Donc, on a beaucoup parlé de l'adresse du Heat sur ce match, mais je crois que ce choix a eu vraiment à pencher dans la balance sur ce match-là.
Ouais, carrément d'accord avec toi. Allez, Shai, je te propose d'enchaîner derrière Fred et de prendre le deuxième pic.
Alors... Réfléchissons, c'est pas facile, parce que autant le premier je l'avais, autant là je suis tenté de faire le malin, tenter un truc compliqué, enfin un peu étonnant. Et puis là je me retrouve au milieu de deux coachs aussi, moi je suis un peu GM qui sait pas trop ce qu'il fait.
Faites-toi plaisir, voyez
le même avec le chien qui porte une cravate et qui a les pattes sur le clavier, et puis je ne sais pas ce que je suis en train de faire, je me sens comme ça un peu. Non, alors je pense, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre un coach que j'aimais déjà bien avant qu'il ait du succès. Je vais prendre Michael Malone. Je ne suis pas assez intime avec lui pour l'appeler Mike, comme très peu de personnes sur cette planète, mais je vais prendre Michael Malone.
Si tu l'avais appelé Mike, il aurait débarqué dans la session pour te remettre à ta place tout de suite.
Sûr et certain. Je vais prendre Michael Malone parce que là, sur son règne à Denver est de très très bonne qualité. Il a eu différents types d'effectifs. Alors, on peut dire que Jokic a sublimé son règne en tant que coach. Forcément, c'est un atout d'avoir un joueur majeur comme ça. Mais en fait, sur la seule saison qu'il a faite avec Sacramento, c'est l'année où j'étais à New York, et donc ils sont venus, je l'ai vu deux fois, et deux fois j'ai trouvé que son équipe avait fait des bons matchs. J'ai trouvé que c'était le seul coach qui avait un peu réussi à capter l'attention et le respect de Marcus Cousins. Carrément. C'est des choses comme ça, c'est-à-dire que humainement, je pense que c'est un coach qui se fait beaucoup respecter. C'est important, c'est une composante du métier de coach, c'est les qualités humaines et la manière d'être respecté par ses joueurs, de les amener à ce que vous décriviez sur Spoelstra, c'est-à-dire à appliquer la vision du coach. Donc il a ce côté-là, il a ce côté tacticien, enfin, il suffit de l'écouter parler et de voir aussi lui aussi ses adaptations, les ajustements, la manière dont il fait jouer son équipe. Et ça me paraît être un choix safe et à la fois normal, parce qu'il est sur une pente ascendante aussi, parce que son équipe elle est redoutable. Et je pense même que grâce à son coaching... Et s'il n'y avait pas eu la fameuse blessure de Jamal Murray, peut-être que les Nuggets auraient deux titres de champion aujourd'hui. Alors, on est dans de l'hypothétique, mais c'est un coach qui coach bien depuis plus longtemps que ce que les gens pensent de mon point de vue. Donc voilà, Michael Malone, deuxième pick pour moi.
Ouais, bah moi je l'avais très haut aussi dans ma liste, et pour faire écho à ce que disait Fred tout à l'heure, c'est aussi un coach qui a eu l'occasion de rester en place tout simplement et d'avoir la confiance de son staff. Il en parle lui-même, notamment une année où je ne me rappelle plus quelle était la saison, où finalement les Nuggets étaient en lice pour les playoffs jusqu'au dernier match. Ça s'est joué sur un dernier match, c'était eux ou les Wolves de mémoire, et finalement les Nuggets sont pas passés, et il s'est dit ah mais ça se trouve je vais sauter quoi. C'était l'année, fallait pas rater les playoffs. Et il raconte que le proprio et le GM lui ont dit non mais on croit en ce que t'es en train de faire. Il y a des joueurs qui sont en train de se développer, ça va payer. Et aujourd'hui, ce qui paye effectivement avec Denver, c'est la continuité, en fait, tout simplement. Et je te rejoins complètement, Shai, sur le. Moi, je crois comme toi, en tout cas, que l'année où ils ont récupéré Aaron Gordon, donc juste avant que Jamal Murray se blesse, ils étaient devenus mes favoris pour le titre parce que je pensais qu'ils avaient toutes les armes vraiment pour pouvoir aller au bout. Et Michael Malone, attention, pas me tirer les oreilles, il est pour beaucoup. J'aime beaucoup ce coach aussi.
Ah, c'est 2018, là, c'est la saison en question, et c'est vrai que c'était intéressant, c'était un choix fort de Tim Conley, qui est évidemment pas étranger à ce qui s'est passé aux Nuggets ensuite, mais puis Malone, je sais pas, j'aime bien, il a développé de la confiance en conférence de presse aussi, petit à petit. Il a toujours été comme ça, un peu, peut sembler brut de décoffrage, et en même temps un peu taquin, les espèces de piques qu'il a lancées envers les Lakers et tout ça, c'est le package que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que c'est pas un coach insipide non plus.
Et un truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça paraît évident de construire une équipe autour de Nikola Jokic, mais celui qui a pris cette décision, bah, c'est bien Michael Malone, quoi. Donc, il a aussi eu le courage de l'impliquer complètement, hein. Enfin, tous les coachs n'auraient pas fait ça. Il faut se le dire aussi.
T'as tout à fait raison, notamment au moment du trade de Nurkic, parce qu'en fait ils avaient ces deux big men, ils auraient pu se dire bah non, on va garder les deux un peu plus longtemps pour voir vraiment lequel est le plus fort. C'était un geste très fort finalement de trader Nurkic, ça voulait dire bah non, on a confiance dans Nikola Jokic, c'est lui qui va être la pierre angulaire de notre équipe à ce moment-là, quoi.
Et je trouve aussi qu'il se débrouille très très bien pour donner de l'impact à Jokic en défense, parce qu'on sait c'est un domaine sur lequel il est souvent pointé du doigt. Et moi, je ne trouve pas que ce soit à juste titre, parce que justement, il se débrouille très, très bien. Et je pense que le coach y est pour beaucoup aussi, dans les schémas qu'il propose.
C'est marrant que tu en parles, parce qu'on en parlait juste avant de commencer le podcast, justement de ce point-là, de son point de vue-là avec Shai. Et on se disait que notamment sur ses playoffs, alors les saisons précédentes, on disait, bah oui, il est dans les aides défensives, c'est-à-dire collectivement, il est très bon. Mais là, dans la série face aux Lakers, notamment dans le dernier match même perdu par Denver, je l'ai trouvé très bon sur l'homme, sur Anthony Davis, à vraiment, pour le coup, en défense en 1 contre 1. Et c'est plus du tout le peintre qu'on a voulu nous décrire longtemps, trop lent pour pouvoir défendre. C'est devenu plus qu'un défenseur correct, je trouve.
C'est vrai.
Allez, j'enchaîne. Un choix qui va peut-être sembler polémique vu la saison et vu toutes les critiques qui s'est mangé toute l'année. Moi, je vais prendre Greg Popovich. Parce que c'est pas simplement pour l'ancienneté, c'est pas simplement pour la gloire passée de l'entraîneur et tous les titres qu'il a pu gagner, c'est pour plusieurs raisons en fait. D'une part, sa capacité à mettre en place une culture, même si je suis d'accord avec toi, Fred, parfois on en fait trop autour de ce terme maintenant qui est omniprésent, mais malgré tout, à San Antonio, les gens qui viennent à San Antonio ou qui y sont passés, on en parlait avec Yann Mahami qui était le rédacteur en chef spécial de notre dernier numéro, qui l'explique très bien, tu en ressors transformé dans le sens où ça te donne un certain nombre de clés de la réussite, en termes en tout cas d'éthique de travail, d'exigence personnelle, et ça commence avec Greg Popovich. Bien sûr, il a eu David Robinson et Tim Duncan, bien sûr, il a eu Ginobili, Parker et maintenant Wembanyama, mais c'est quand même lui qui a été l'artisan de ça. Et moi, ce que j'ai trouvé admirable, c'est que sur le début, sur les premiers titres des Spurs, on aurait pu dire que c'était un coach avec un système, qui avait un système qui fonctionnait très bien avec des intérieurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, il était capable malgré tout d'adapter son jeu aux qualités de son équipe, même parfois les derniers titres en utilisant très bien le spacing et le tir à trois points, alors que c'est le premier qui vous dira qu'il déteste le tir à trois points, qu'il préférait que ça n'existe même pas. Et donc voilà, c'est cette capacité d'adaptation. Je sais que cette année, beaucoup ont été déçus par les résultats des Spurs, que parfois certains ne comprenaient pas l'utilisation de Victor Wembanyama au sein de San Antonio. Moi, je pense vraiment que il a simplement tenu le pari qui était celui de début d'année, développer le joueur, voir ce qu'il était capable de faire, de pas faire, qui était capable à côté de lui aussi. On se rappelle de Jeremy Sochan, qui était meneur en début de saison, l'a beaucoup crié au scandale. Ce que je peux comprendre d'un point de vue strictement victoire-défaite, je pense que cette année, elle aurait été bénéfique pour tout le monde, du moins à San Antonio, parce que le projet, il n'est pas sur un an, il n'est même pas sur 3 ans, sur 2 ans, et c'est un projet à moyen terme et long terme. Donc voilà, moi, je prendrais Greg Popovich, et puis aussi parce que dans ce monde, finalement, ultra compétitif où on ne vaut que... Enfin, notre valeur n'est évaluée qu'à l'aune de ce qu'on vient de produire. Il y a quand même une espèce de philosophie autour de la vie et de la place du sport dans ça que je trouve plus qu'intéressante, en fait. Et je pense que ça fait partie aussi de la culture des Spurs, et que quelque part, les grands coachs ont besoin d'une part d'humanité que certains coachs ont pu avoir des performances parce qu'ils se sont fait détester de leurs joueurs. Par exemple, on sait que ça a existé dans tous les sports, mais que ça ne te permet pas forcément de fonctionner longtemps sur la durée et d'être connaître le succès à répétition. Et je pense que voilà, Greg Popovich, sur les valeurs humaines, il représente ça aussi.
Moi, je l'avais plus bas, mais juste à cause du critère de l'âge. Parce que je m'étais dit, bon, si aujourd'hui je commence une franchise, mais par contre, oui, moi, je l'aurais pris assez haut aussi pour toutes les raisons que tu as évoquées. Si ça se répète, si cette saison-là se répète ou si ça dure trop, le côté on a vraiment zéro résultat, il n'y a pas de progression dans le résultat, ça voudra peut-être dire que les détracteurs qui disent qu'il est has-been, enfin, au terminé, je ne dis pas qu'ils auront raison, mais ce sera peut-être effectivement le moment de passer la main. Mais là, je le crois encore très affûté au niveau de l'esprit et de ce qu'il est capable de faire. Et à mon avis, on va le voir dès l'année prochaine, je pense.
C'est ça que j'aimerais souligner aussi.
Vas-y, pardon.
À propos de Greg Popovich, c'est justement il a cette capacité à s'adapter. Il est pragmatique, Greg Popovich. Comme tu as dit, Théo, début de carrière, il s'est plutôt reposé logiquement sur les intérieurs. Un jeu aussi très adapté à l'époque. Donc, on joue vraiment sur du jeu intérieur, sur ce qui faisait la différence en NBA. À partir des années 2010, fin 2000, même, ouais, voilà, début 2010, fin des années 2000, il a Tony Parker qui vraiment était sur la pente ascendante, Tim Duncan qui commence à vieillir. Il a vraiment donné des responsabilités à Tony Parker à ce moment-là et son jeu a changé, comme tu le disais. J'ai notamment écrit un article dessus sur le Beautiful Game. Ce jeu en mouvement, c'était pas sa volonté première, c'était juste une adaptation aussi à la défense du Heat qui était hyper agressive. Et pour battre ces défenses-là, il fallait du mouvement, il fallait créer ce jeu en mouvement et il l'a fait. Et derrière, l'utilisation du tir à trois points. Et quand tu vois ce que fait Greg Popovich aujourd'hui, même en termes de relationnel, pour moi, il a évolué, il s'est adapté à l'époque parce que Victor Wembanyama, il lui donne énormément de liberté. Il a toujours son côté autoritaire, mais il laisse passer beaucoup plus de choses qu'il n'aurait fait par le passé avec un Tim Duncan parce qu'il s'adapte aussi aux personnalités. Et moi, je pense que cette année, on l'a vu en fin d'année, les Spurs commencent à jouer, ça jouait mieux. Les performances de Victor Wembanyama étaient vraiment ascendantes. Donc, il a eu raison du début à la fin, en fait. Il a une vision à long terme, il a beaucoup de bouteilles, mais il n'est pas du tout dépassé. Je pense que si on était dans un contexte où, comme dans le sport européen, il y avait des montées-descentes, les Spurs n'auraient pas ce classement-là. Les Spurs auraient fait ce qu'il fallait faire, en fait, pour rester au plus haut niveau. Et il a encore une vision à long terme qui, moi, m'épate, parce que plus on prend de l'âge, plus c'est difficile de s'adapter, de changer. Et bien lui, il le fait et vraiment, c'est remarquable. Donc moi, je l'avais très haut aussi dans mon classement personnel, dans ma draft personnelle.
Ouais, et puis c'est vrai que l'âge avançant, il aurait pu aussi se dire « Non, mais moi, je veux gagner des titres maintenant. J'ai pas 15 ans, j'ai même pas 5 ans pour attendre que Wembanyama soit MVP potentiel ou nous porte. » Donc t'as raison de souligner ça, ouais. Qu'est-ce que t'avais à la suite du coup, Fred ?
Eh ben, j'ai ma liste là qui... C'est vraiment très difficile. Moi, on va rester dans le thème de Greg Popovich, dans l'arbre de Greg Popovich. Je vais choisir Will Hardy. Will Hardy que j'adore. Vraiment, c'est un entraîneur que j'adore. Parce que, alors, il se retrouve aussi dans une situation où il peut se faire plaisir. Clairement, on ne l'attend pas tout de suite au niveau des résultats. Donc, il peut se permettre d'être très innovant. Et il l'a été. Il a tellement été qu'il a un peu détruit le projet en les rendant trop forts, trop tôt. Donc, derrière, bon, on lui a remis des bâtons dans les roues pour « Attends, ça ne va pas trop vite. »
Tu revois la photo avec Danny Ainge derrière en tribune qui fait genre « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Alors évidemment, c'était sans doute pour autre chose, mais c'était tellement représentatif. L'année dernière, il surperforme alors que c'est Noé Maniama et Danny Ainge derrière. C'était magnifique.
En fait, j'aurais pu citer Mark Daigneault qui vient d'être élu meilleur coach de l'année et à juste titre, mais vraiment moi Will Hardy, il m'a marqué sur plein de choses qu'il a fait avec le Jazz depuis qu'il est en place. Moi j'ai vraiment en tête une zone match-up qu'il a faite pour mettre Walker Kessler qui jouait plus trop avec Kelly Olynyk, avec les deux qui restaient plantés près du panier. Et les trois devant qui switchaient surtout, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent en NBA, que je n'avais jamais vues avant. Et il a vraiment cet esprit très créatif. Il a changé son 5 plusieurs fois depuis qu'il est en place. Ça avait très bien marché avec Fontecchio, cette fameuse période où il gagne une dizaine de matchs de suite, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c'est très créatif au niveau des systèmes de jeu. C'est d'ailleurs, c'est des systèmes ouverts, ce n'est pas des systèmes fermés. Il est vraiment très créatif. C'est l'un des premiers, on parlait de très récemment, UConn fait beaucoup parler cette équipe fait beaucoup parler d'elle parce que justement, c'est magnifique. C'est l'un des premiers à avoir utilisé un pivot dans le corner, en fait. Pour faire basculer le jeu, jouer des mains à main, des choses comme ça. Donc, en fait, d'un point de vue tactique, je le trouve vraiment très, très, très fort. Et il m'a l'air aussi bon meneur d'hommes, donc Will Hardy, pour le potentiel, parce que c'est l'un des plus jeunes entraîneurs de NBA. Je joue aussi sur le potentiel. C'est une draft, donc je le draft en quatrième position pour son potentiel.
Super choix. Et c'est marrant pour que tu saches tout, Fred. Avant qu'on parlait avec Chad, justement, on parlait de Dan Hurley, de l'attaque de UConn qui est passionnante à regarder. Il y a plein de principes vraiment super intéressants. Donc c'est vraiment marrant que tu fasses le parallèle parce que effectivement, c'est je pense qu'effectivement le potentiel d'un coach, il est à prendre en compte aussi comme on le ferait pour un joueur parce que il apporte plein de bonnes idées. Ça a même surperformé à un moment où on s'y attendait pas. Moi aussi, je l'avais haut, Will Hardy aussi. C'est à toi de prendre, du coup, Chai.
C'est à moi, c'est ouais. Ça.
C'est ça.
J'hésite encore. Allez, je vais prendre Mark Daigneault. Je vais prendre Mark Daigneault, que j'aimais bien déjà avant, parce que la manière dont, au moment où OKC était vraiment sur du tanking, c'est-à-dire il y a deux saisons, on va dire, j'aimais bien la manière dont il développait les joueurs. On voyait que ça ne mènerait pas forcément à des résultats probants tout de suite, mais j'aimais bien la manière dont il impliquait les jeunes joueurs. Il a cet ADN de coach qui développe, et il a réussi cette bascule de coach qui développe vers coach qui coach une équipe très compétitive, enfin qui a vocation à être compétitive, et il l'a fait dans des proportions. OKC est numéro 1 de la conférence Ouest. Il y a beaucoup de concurrence. Pour moi, c'est un exploit avec cette équipe-là aussi jeune, aussi mature. Le fait d'avoir rendu cette équipe aussi efficace malgré sa jeunesse, je trouve que c'est une prouesse, et ça s'ajoute à tout ce qu'il a fait de bien avant, et ça avait même commencé en G-League, parce qu'avec avec le Blue d'OKC, il avait déjà tenté des choses, montré des choses qui étaient intéressantes, et qui laissaient supposer que ce serait un excellent coach en NBA. Donc il y a l'âge qui entre en ligne de compte, il n'a que 39 ans, donc pour moi aujourd'hui tu peux démarrer une franchise avec un gars qui a cette fraîcheur, et en même temps qui a de l'expérience aussi, parce qu'il a été dans des staffs, il n'a pas tout de suite été head coach, donc je le prends à cette position, sans doute qui bénéficie dans mon esprit de ce titre de coach de l'année, mais son titre est mérité, et je pense qu'il est capable de faire de très très grandes choses déjà actuellement et probablement à l'avenir, une fois qu'il aura accumulé encore quelques années avec OKC, mais cette fois dans l'optique d'être performant.
Qu'est-ce que tu penses toi du jeu d'OKC, Fred?
Il est magnifique. Il a aussi les joueurs pour, mais c'est des jeunes joueurs. C'est jamais évident en fait de faire aussi bien jouer des jeunes joueurs. Et je trouve qu'il a trouvé justement la manière idéale pour pouvoir faire jouer tout le monde. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est Josh Giddey. Il y a pas mal de coachs qui ne se seraient pas pris la tête et qui l'auraient peut-être fait sortir du banc. C'est pas le cas. C'est sur plusieurs possessions, c'est lui le porteur de balle principal de cette équipe, et je trouve que il arrive justement à bien gérer ses temps en fait entre SGA et lui et Jalen Williams, et en fait c'est hyper fluide, et quand le banc rentre, le banc est performant, et même les mecs qui sortent de G League ils sont performants, donc moi ça c'est vraiment des choses. Comme je dis, c'est pas un truc qui est dû au hasard. C'est vraiment un travail de fond qui est effectué avec un coach qui est forcément bon dans ce qu'il fait. Donc moi, je te suis parfaitement, Shai. J'aurais peut-être mis aussi. J'hésitais pour mon quatrième choix du coup. Donc c'est logique qu'on le retrouve dans le top 5.
Il y a l'aspect humain qui est intéressant aussi parce que, comme je dis, enfin c'est difficile aujourd'hui de pas être aussi un bon manager d'hommes, et tous les gens qui l'ont côtoyé, j'ai lu pas mal de choses sur lui, même avant qu'il fasse cette saison-là incroyable, il y a un côté très... Alors, il a à la fois l'aspect geek du basket, qui est, les gens parlent de lui comme ça, et en même temps, vraiment très humain, qui s'intéresse aux autres, et qui est proche de ses joueurs, et ça, à nouveau, lui aussi, il a un package très complet, je trouve. Il est très intéressant à écouter, d'ailleurs, aussi en conf de presse, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais... Je trouve que c'est un coach très très complet malgré son jeune âge.
Ouais, et pour rejoindre ce que tu disais, Fred, moi, effectivement, ce que je trouve admirable, en fait, c'est la qualité du jeu collectif qui a été, dont fait preuve OKC avec une équipe aussi jeune. Parce qu'effectivement, c'est là qu'ils sont surprenants de maturité, en fait, je trouve. C'est qu'ils sont sûrs de leur jeu et restent dans leur jeu, sachant que voilà, on sait ce que c'est. Là, pour le coup, à UConn, bien sûr, tout le monde reste dans son jeu, parce que le coach a les clés en main. La NBA, c'est pas du tout ça, en fait. Je veux dire, si Jalen Williams, aujourd'hui, il dit « Non, moi, je veux tourner à 26 points par match minimum pour mon prochain contrat », il n'y a pas un coach qui pourra l'empêcher de le faire et de prendre tous les tirs qu'il veut, en fait. Tu vas pas le mettre sur le banc, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a cet état d'esprit qu'il a su insuffler. Effectivement, il a les joueurs qui sont... L'équipe, elle est magnifique, hein, je trouve. Enfin, manque peut-être un petit peu de banc encore, mais en tout cas... Le haut de l'équipe est vraiment, vraiment incroyable, et la fluidité du jeu et ce côté un petit peu, là c'est peut-être aussi à l'image du coach, mais de leur franchise player, quoi, de l'espèce de sérénité que dégage cette équipe, où finalement tu les vois quasiment jamais sortir de ce qu'ils savent faire, quoi. Il n'y a pas de hero ball du tout, en fait, dans cette équipe, alors que bah, certains ont le potentiel ou le talent même pour pouvoir être tentés par ça, quoi.
Et j'ai vu passer aussi une chose récemment, un article justement sur le fait, c'est l'une des équipes qui concède le plus de rebonds défensifs, et il en a conscience de ça, et justement, alors j'ai pas lu tout l'article, juste quelques passages, mais en tout cas il disait, en gros on le sait, on s'est rendu compte que ça avait pas tant d'impact, alors que voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment conscient de tout. De tous les aspects du jeu, même à l'intérieur, en dehors. Enfin, bref, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'air du temps. C'est cette nouvelle génération de jeunes coachs qui sont hyper complets, en fait. C'est le truc qui ressort, hein, c'est que c'est vraiment une génération d'entraîneurs hyper complets, que ce soit tactiquement et très flexible aussi au niveau de leur gestion humaine.
Et bravo à Sam Presti aussi d'avoir de l'avoir choisi, parce qu'il faut qu'un GM te fasse confiance pour pouvoir être en situation de gagner et d'être considéré comme l'un des meilleurs coachs. Il avait été assistant avec Florida, mais après, il était dans la couveuse Sam Presti un peu au KC Blue, et je suis assez admiratif aussi du travail de... Alors, c'est pas un podcast sur les GM, mais Sam Presti, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur son œil et son flair, notamment là, en matière de coach avec Mark Daigneault.
Ouais, carrément. Maintenant, on a hâte effectivement de le voir dans ce jeu d'ajustement au sein de série de playoffs, parce que voilà, c'est et pour Will Hardy aussi, quand l'heure sera venue, ça va être là-dessus maintenant qu'on a hâte de les voir en situation. Allez, moi, je vais prendre en sixième pick de cette draft. J'aurais jamais cru que j'allais prononcer la phrase que je vais prononcer, mais je choisis Tyronn Lue.
j'étais pas loin.
Non, mais je prends Tyronn Lue. Alors, pour donner le passif un petit peu, moi j'adorais David Blatt, coach européen, ouais. Incroyable, voilà, qui a coaché brièvement les Cavs, enfin qui était en finale NBA quand même avec les Cavs, qui a été ouais. Remercié alors qu'il était deuxième, je crois, de la conférence Est, où il a été dégagé. Et c'est Tyronn Lue qui a pris sa place. C'est vrai que pendant longtemps, je pensais que c'était ce qu'on appelle un player's coach, mais les mauvais aspects du player's coach. En gros, le coach qui va dire oui à ses stars et puis qui va avant tout prioriser ça. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai changé d'avis, mais je trouve que Tyronn Lue, en termes d'ajustement et sa capacité à préparer son équipe, quelle qu'elle soit en fait, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'il ne sait jamais quelle équipe il aura sur le terrain d'un soir sur l'autre, je trouve qu'il est vraiment excellent là-dedans, quoi. On va pas revenir sur le match 1 forcément de la série face à Dallas, mais j'avais trouvé que il y avait un plan de jeu qui était surprenant, qui a été exécuté à la perfection, et vraiment cette victoire, c'était avant tout, enfin non, la victoire c'est toujours avant tout celle des joueurs, mais ce que je veux dire, c'est que tu voyais vraiment la patte du coach sur cette victoire. On n'a jamais eu l'occasion de le voir, c'est vrai, dans un projet de reconstruction avec des jeunes, mais au bout du compte, il a toujours dû composé avec des jeunes joueurs peu expérimentés et lui aussi leur permettre de s'exprimer et d'avoir un impact dans le jeu. Donc ouais, j'ai Tyronn Lue, donc moi je prendrais Tyronn Lue, ouais, donc en sixième, c'est ça, de notre draft.
Il arrive toujours à trouver quand il y a des moments compliqués, qu'il faut intégrer tel ou tel joueur, que ça marche pas au début, qu'il est critiqué parce que c'est un poste à pression, mine de rien, là où il se trouve, il arrive toujours à trouver aussi ses formules, ses ajustements pour que ça fonctionne. Ça, c'est un coach hyper astucieux, je trouve. Moi, même sans rentrer dans l'aspect vraiment très très tactique, que je maîtrise beaucoup moins, je trouve qu'il est voilà, il a beaucoup de, il est très débrouillard, et comme toi, hein, on en rigolait un peu au début en disant ouais, bon bah il est là, quand il avait pris la suite de David Blatt, on s'est dit bon bah c'est LeBron qui coach, et puis lui il va exécuter un peu pour faire plaisir, mais très vite on s'est rendu compte qu'il y avait plus que ça, et aux Clippers c'est pareil, c'est un coach complet, très très respectable, très très respecté, parce qu'il y a aussi là les qualités humaines qui font qu'on parle de lui comme un player's coach, mais je trouve aussi que ça, c'est un coach qui est peut-être encore même sous-coté aujourd'hui et qui a gardé cette étiquette qui est à mon avis un peu injuste aujourd'hui.
Ouais. Vas-y Fred.
Je voulais juste dire que j'étais d'accord avec vous et que moi j'étais vraiment convaincu que c'était un top coach l'an passé, parce que malgré la défaite en playoff, j'ai trouvé qu'il avait vraiment su s'ajuster et faire sans Kawhi, sans Paul George. Il a trouvé quand même les moyens d'embêter. C'était les Clippers contre les Suns.
C'était les Suns.
Et je trouve qu'il avait vraiment, qu'il s'était vraiment très bien adapté malgré la défaite en responsabilisant Westbrook à 100%. Et cette année, comme tu le disais aussi, Shai, c'était un peu le feu hein, sur les débuts de match, sur les débuts de saison avec James Harden. Il avait dit laissez-moi 10 matchs, si me semble.
Ouais,
et au final, il a prouvé à tout le monde qu'il avait raison. Donc c'est un super coach et qui souffre peut-être de cette étiquette due à comment il est rentré en NBA finalement.
C'est vrai. Et d'ailleurs, on a oublié de le souligner tout à l'heure quand on parlait d'Eric Spoelstra, mais Eric Spoelstra qui n'a jamais été élu coach de l'année. Et Tyronn Lue qui est même jamais parmi les finalistes. Après l'élection du coach de l'année, ça vaut ce que ça vaut. Mais une autre c'est quand même de ses grandes qualités, et je pense à Tyronn Lue et qui est assez rare, c'est de pouvoir d'être à la fois un excellent coach de système, tactique, et un player's coach dans le sens où respecté par les joueurs, plein de joueurs ont envie de jouer pour lui, notamment des stars. Et c'est pas si simple, je pense, que ça, d'arriver à faire en sorte que des stars acceptent de s'adapter. Mais rien que dans la série qu'on est en train de vivre avec Dallas, d'un match sur l'autre, en fonction qu'il y ait Kawhi Leonard ou pas, que la balle soit entre les mains de Paul George ou qu'elle se recentre autour de James Harden, comme c'est dans le match 4, ces stars acceptent leur rôle. Westbrook, on l'a jamais senti. Enfin, faut se rappeler de Westbrook aux Lakers, on se disait non mais c'est plus possible, il y avait des blagues genre allez rendez-vous à Taïwan la saison prochaine ou je sais pas quoi, et au bout du compte, comme tu disais Fred, en playoff là, avec tous les blessés, il a été extraordinaire, on a retrouvé un peu le Westbrook qu'on avait connu quelques années auparavant quoi. Donc ça nous fait... Allez, petit récap quand même. Donc sur nos deux premiers tours de draft, on a donc Eric Spoelstra en premier, Michael Malone en deuxième, Greg Popovich en troisième, Will Hardy en quatrième, Mark Degnaud en cinquième, Tyronn Lue en sixième. Et maintenant, c'est début du troisième tour de draft. Allez, la parole est à toi, Fred.
Je suis obligé de parler de Jamal Mosley.
J'attendais.
Je voulais le... très sincèrement, normalement, j'aurais sélectionné un peu plus tard, mais c'est une bonne occasion de parler de ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire au Magic. Alors, on parlait aussi du contexte et de l'environnement qui doit être favorable. À Orlando, il est dans cet environnement-là, où vraiment, on ne lui a pas mis de pression. Il était là pour développer. Il est en avance sur son projet, il faut le rappeler. Il est en avance sur son projet et... Lui, pour le coup, c'est vraiment un player's coach qui, je pense que c'est le meilleur player coach. Enfin, moi, c'est parce que je suis beaucoup cette équipe. Je regarde toutes les vidéos qui font sur YouTube, sur qu'est-ce qui se passe là, en interne, les images qu'ils montrent, hein, bien évidemment, mais la manière dont tous les joueurs parlent de lui et même les adversaires, ça prouve vraiment qu'il a instauré une mentalité, en fait, dans cette équipe qui est formidable. Vraiment, en termes de talent, c'est très limité, Orlando. On ne va pas se mentir. C'est hyper limité. Mais tu as cet état d'esprit où tu as vraiment 15 soldats. Quoi. Les gars, c'est même pas 15 soldats, c'est 15 frères, en fait. C'est vraiment, il a vraiment instauré ça. Et défensivement, vraiment, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à mettre en place. Alors oui, il a le personnel, parce que beaucoup de longs, joueurs longs, athlétiques. Mais sur ça, il s'est très, très, très bien ajusté en justement faisant les bons choix défensifs et d'organisation, parce que c'est l'une des meilleures défenses, le Magic, deuxième meilleure défense en saison régulière et aussi la meilleure dans sa faculté à créer des interceptions. Et ça, c'est important parce que ça fait aussi partie de la défense, le fait de compromettre en fait l'attaque adverse à tirer moins dans un match, ça fait moins de tirs, ça fait moins de points, et ça, le Magic est très très bon pour ça. Par contre, gros bémol sur l'attaque, pardon, je bégaye comme son attaque en fait. Non, vraiment, le Magic en attaque, c'est vraiment pas terrible, et je pense que c'est sur ce point qu'il peut et qu'il doit énormément progresser Après, je comprends sa logique. Il donne beaucoup de responsabilités à Paolo Banchero, beaucoup de responsabilités à Franz Wagner. Il y a beaucoup d'ISO, du coup, beaucoup de jeux où c'est assez statique pour qu'au final, les deux trouvent les solutions. C'est intéressant d'un point de vue développement parce que justement, ça pousse les joueurs à trouver eux-mêmes des solutions et à s'améliorer sur le pick and roll parce que ça reste l'une des actions phares en fait, dans le basket actuel. Les deux ne sont pas performants à l'heure actuelle sur ces phases de jeu, mais en tout cas, les deux jouent énormément sur pick and roll. Donc forcément, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont progresser. Et je pense que le coach aussi, c'est sa troisième année, Jamal Wesley va progresser aussi. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs potentiels. Il reste encore assez jeune, donc j'aimerais le voir encore longtemps à Orlando. Alors peut-être avec l'appui d'un assistant coach de très haut niveau aussi pour booster l'attaque du Magic. Mais vraiment, gros respect pour ce qu'il a fait cette saison et comment il a transformé cette équipe et cet état d'esprit qui est vraiment très, très, très appréciable pour nous les fans.
Il y a Mac D'Antoni qui est libre, hein, sinon pour assistant coach. Si tu veux un peu d'attaque.
Pour l'attaque, ce serait cool. Hein. Moi, je dis pas non à Mac D'Antoni. Hein.
Mais c'est vrai, ce que tu notais sur le développement des joueurs sur ce côté-là chez lui, c'est une identité qu'il a toujours eu parce que quand il a commencé comme dans le staff des Nuggets, où il est resté bien 5-6 ans, hein, il était vraiment spécialisé là-dedans. Il a travaillé individuellement avec beaucoup de joueurs qui après sont devenus très bons. Pareil chez les Cavs où il avait cette étiquette-là et chez les Mavs après. Moi aussi, c'est un peu une révélation parce que quand forcément je le suivais moins avant quand il était un anonyme dans un staff et à Orlando, je me demandais ce que ça allait donner. Et voilà, il y a plein de choses très très positives. Tu le soulignais, la défense avec une équipe aussi jeune, c'est impressionnant de réussir à responsabiliser, à donner une vision défensive à des joueurs qui sont pas forcément habitués à défendre. Hein. C'est une génération de joueurs auxquels on apprend à essayer à se mettre en avant individuellement, offensivement, et ils arrivent à se connecter tous pour faire quelque chose de très fort en défense. Et les progrès, t'as raison, il y a une marge de progression pour lui. Ça peut passer par par l'arrivée d'autres profils d'assistants ou juste lui, sa progression naturelle, aussi l'arrivée d'autres joueurs plus talentueux qui lui permettent des choses offensivement. Mais c'est un très très bon coach. Je suis comme toi, je suis ravi que ce soit le coach du Magic. Et quand on lit un peu à droite à gauche les fans du Magic, ils sont pas tous convaincus encore. Hein. Je sais pas si tu vois, mais c'est...
Mais non, mais justement pour cette attaque en fait, pour les choix qu'il fait en attaque, pour ses rotations, c'est vrai que t'as l'impression que c'est tout le temps les mêmes rotations. Mais en même temps, le mec n'a jamais lâché ses joueurs. Quand tu regardes Jalen Suggs, il aurait pu le lâcher. Quand tu regardes Markel Fultz, il aurait pu le lâcher. Il aurait pu lâcher Cole Anthony. Et au final, c'est des joueurs qui te montrent toujours qu'on peut compter sur eux parce qu'il a compté sur eux. Et pour moi, ce n'est pas anodin. Donc il a des grosses lacunes en attaque. Et c'est pour ça que je pense que les fans aussi sont un peu durs avec lui. Je te suis complètement. je vois absolument de quoi tu veux parler. Donc Oui, ça fait partie de la société aussi actuelle où on veut tout de suite et parfois on ne donne pas assez de crédit à ce qui est bien fait.
Et tu parlais du fait qu'effectivement la grosse force de Jamal Mosley et d'Orlando, ce soit la défense. Et justement, je suis curieux d'avoir ton avis, Fred, parce que tout à l'heure, Will Hardy ou Mark Degnaud ont été pris très haut dans notre draft. Moi, j'ai le sentiment que l'attaque, finalement, ça reste ce qu'il y a de plus compliqué à coacher et à implémenter à haut niveau, mettre en place une attaque vraiment qui fonctionne à plein régime. Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu as un avis différent? Comment tu vois ça, Fred?
Et moi, je suis d'accord avec cette idée-là, parce que concrètement, c'est vrai que c'est plus facile de faire adhérer à des concepts défensifs parce que en attaque en fait il faut une certaine habitude, il faut une certaine connexion qui est beaucoup plus difficile à trouver qu'en défense, tout simplement parce qu'en attaque il y a un ballon. En défense, bon, tu t'organises par rapport au ballon, mais en attaque tu dois être l'organisateur en fait. Et les aujourd'hui, ce qui fait la force des attaques en NBA, c'est justement le côté, il y a eu un MOOC qui a été consacré à ça, au playmaking. Donc, et ça, ce n'est pas évident. C'est pour ça que moi, je n'en veux pas du tout à Jamal Mosley, parce qu'il n'a pas le personnel. Et aujourd'hui, il est encore en développement. Donc, il essaie de développer ses joueurs en leur donnant des responsabilités. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'améliorer de la lecture de jeu de joueurs, surtout en NBA. Parce que ça, on l'oublie aussi, la NBA, les joueurs n'ont pas eu la même formation. Il n'y a pas que des joueurs européens, il n'y a pas que des joueurs internationaux. Donc, c'est plus long aussi et tu es aussi souvent dans l'urgence. Parce que mine de rien, même si tu es sur un projet de construction, de développement, tu as toujours les fans qui sont en train de râler. Donc, c'est pas évident, en fait. Vraiment, il faut partir. Enfin, lui, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi une manière de fonctionner qui lui permettait d'avoir à la fois des résultats tout en développant des joueurs en attaque. Donc, on l'a dit, la défense, tout le monde s'est mis au diapason. En attaque, la franchise va tourner autour de Paolo Banchero et Franz Wagner. C'est logique que les deux soient les plus responsabilisés. Et c'est aussi l'une des équipes qui perd le plus de ballons. Donc, si tu fais du jeu en mouvement avec une équipe comme ça, tu vas perdre énormément de ballons. Donc, tu vas affaiblir ta défense. Donc, pour moi, en tout cas, sur ta question de base, je suis d'accord que c'est plus facile de mettre en place une défense plutôt que des principes offensifs qui nécessitent de la répétition, du temps et surtout une meilleure connexion entre les joueurs. Mmh. Une alchimie.
Ouais, non, mais t'as raison. Et puis de la maturité, ce que tu disais, c'est-à-dire que voilà, ce que Franz Wagner et Paolo Banchero sont en train d'accumuler comme expérience aujourd'hui devrait leur permettre à eux et à l'équipe de développer un meilleur jeu offensif par la suite, quoi. Allez, Chai, c'est ton tour de monter au créneau.
Bon, il reste des gros CV hein, quand même. Hein, ouais. Mais j'ai pas envie de céder à la pression.
Attends, petite stat quand même. Pour l'instant, donc sur notre top 7, on a drafté que. Non, on a drafté 3 champions NBA.
Ok. Je vais pas prendre un ancien, pour l'instant en tout cas. Je pense que je vais choisir un coach qui n'a que 2 saisons pleines en NBA à son actif. Et je vais choisir Ime Udoka. Je vais choisir Ime Udoka parce que j'aime les coachs qui ont un impact sur leur équipe. Première saison à Boston, ils vont en finale NBA. Il a montré une capacité d'adaptation parce qu'en plein milieu de la saison, il y a eu un revirement total. Ils étaient une première partie de saison très, très décevante. Il a changé des choses pour y parvenir et il les a emmenés jusqu'en finale NBA. Il s'est passé ce qui s'est passé. C'est de l'extra sportif. On n'a même pas tous les détails, donc je ne vais pas me permettre de juger ça. Mais il a rebondi immédiatement. Il était très demandé, ce qui montre quand même qu'il est respecté. Et tout de suite à Houston, qui sortait de saison vraiment dramatique, où il n'y avait pas de... On ne voyait pas cette progression qu'on voit parfois chez les équipes en reconstruction. Le pauvre Stephen Silas a eu bien du mal à implémenter quelque chose. Udoka, immédiatement à son arrivée, il a à la fois réussi à développer certains joueurs sur lesquels moi, j'avais finalement assez peu d'espoir, en tout cas sur ce laps de temps. Prendre Jalen Green, sa deuxième partie de saison, d'autres dans l'équipe aussi, et à rendre une équipe qui était un peu bizarre, un peu bizarrement fichue, compétitive, parce qu'on est à l'Ouest et les Rockets, c'était pas si loin que ça de jouer le play-in. Et j'aime la dureté qu'il amène à l'équipe, l'intensité, le sérieux, le fait que c'est un coach qui, à mon avis, sera jamais à la tête d'une équipe qui est là pour tanker s'il n'y a pas de développement. Et je le vois très compétitif rapidement avec Houston. Donc, dans cette optique d'avoir un coach qui est à court, moyen, long terme, je pense que Doka, il coche pas mal de cases. Alors, il a que 2 saisons. Au niveau de la personnalité, voilà, c'est quelqu'un d'assez entier, on va dire, et je ne parle pas du côté extra-sportif, alors on sait pas. Je trouve que c'est un type... En tout cas, cette saison-là m'a impressionné parce que je pense que c'était assez incertain et dangereux, ce mix entre des vétérans... entre Van Vliet et Brooks, plus des jeunes dont on ne savait pas vraiment lesquels réussiraient à rester dans le projet. Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose cette année à Houston et que ça va être très très positif pour la suite. Donc je prends Udoka sur ce pic.
Ouais, un coach à la fois de culture et dans le sens qui va mettre en place un cadre précis, très ferme et aussi bon d'un point de vue tactique. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Fred.
Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et surtout, défensivement, ce qu'a proposé Houston cette année, moi, je suis très tourné sur la défense en ce moment et plus généralement. Il a réussi à rendre Houston hyper compétitif, notamment parce que la défense s'est nettement améliorée. Hein. D'ailleurs, sur une bonne partie de la saison, ça a vraiment reposé sur ça, hein, le succès des Rockets avant l'explosion de Jalen Green. Vraiment, je partage tout ce que tu as dit, Shai. Ça m'avait beaucoup plu aussi ce qu'il avait proposé à Boston. Là, on l'a vu hein, cette saison, que c'était vraiment un très, 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 très bon coach et qui a vraiment un bel avenir en NBA. Donc, j'attends de voir... ce qu'il peut donner avec un peu plus de temps et de moyens à Houston, parce que ça promet.
Il y a aussi cette période où Shengun s'est blessé et sur une dizaine de matchs, ils ont été excellents après, donc c'est retombé, hein, mais je pense qu'il est capable de s'adapter à beaucoup de situations. Ouais.
Moi, il y a notamment un match contre les Spurs Ou ce fameux match où Victor Wembanyama il respirait pas parce que la défense a été hyper agressive. On s'est même retrouvé avec Van Fleet sur lui, mais après des aides hyper agressives. Il y avait pas que lui. Hein. Du coup, Devin Vassell aussi a été marqué à deux quasiment tout le match, mais les rotations étaient parfaites dans ce match-là. Donc c'est vraiment il y a eu plusieurs matchs comme ça de Houston qui m'ont marqué parce que justement défensivement j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et ça part d'un truc tout bête, mais sur transition ça a été l'une des meilleures équipes parce que ils concédaient, enfin t'étais une bonne défense parce que tu concèdes pas beaucoup de paniers faciles et sur ça Houston a été très bon pendant une grande partie de la saison.
Ouais, c'est clair. Et puis avec un super passeur comme Şengün et des athlètes capables de tracer devant, tu te dis, avec le recul, tu te dis, bah, c'est normal, ça aurait dû tout, déjà être ça par le passé. Mais effectivement, Ime Udoka a réussi à mettre ça en place assez rapidement, quoi.
Ouais.
Allez, c'est mon tour. Moi, je vais prendre un autre coach qui a été très décrié cette année, Steve Kerr. Pourquoi pas? Alors, bah, déjà, multiple champion. C'est quand même un coach qui a été, à voir s'il le reste, mais visionnaire, je pense, dans la manière de maximiser le potentiel de son équipe, offensivement et défensivement. C'est quand même lui qui a senti qu'en Draymond Green, il y avait plus que ce qu'on pouvait imaginer au début, même si voilà, la blessure de... Ah, son nom m'échappe intérieur.
David
qui était... Ouais, David Lee, merci. Même si, ouais. Merci, Chai. Même si, voilà, c'est à l'occasion de la blessure de David Lee qu'il a eu l'occasion de responsabiliser plus Draymond Green. Mais on sait comment c'est, hein. David Lee, il avait été All-Star ou Borderline All-Star, je ne me rappelle plus.
All-Star.
Voilà, il aurait pu très bien se dire, bah non, je vais remettre mes titulaires. C'est aussi en finale NBA, le moment où il met Iguodala dans le 5, ça a quand même été un des déclics. À tel point que même Iguodala en a récupéré un trophée de MVP des finales. Je pense qu'on pourra refaire un podcast rien que là-dessus, un de ces quatre. Bref, non, je pense que c'est vraiment un bon coach, un grand coach. Je comprends qu'il soit décrié ces dernières saisons parce qu'effectivement, je suis partagé en fait dans sa gestion. Je suis partagé au sujet de sa gestion du groupe et je suis curieux d'avoir votre avis parce que d'un côté, je pense effectivement que le cadre a peut-être été trop souple avec Draymond Green. Je pense que ça a pu être au détriment de l'équipe et en même temps. Moi, je suis assez touché finalement par l'attachement qu'il a à ses joueurs jusqu'au bout, même jusque dans la défaite, peut-être même jusqu'à au point d'avoir tort en fait dans son acharnement. Mais d'un point de vue humain, là encore, je comprends assez bien en fait ce qui peut se jouer. Et je vous avoue que je suis curieux maintenant de voir la suite en fait, de voir ce que va donner cette équipe des Warriors, vers quoi va se tourner, et aussi de voir ce que lui va être amené à faire dans ce nouveau contexte. Avec c'est une des équipes qui va être le plus intéressant à suivre cette intersaison. Il y a plein de points d'interrogation partout, mais voilà, moi je prends Steve Kerr à ce poste-là.
Moi j'adore sa philosophie, ça y a pas de souci. J'ai adoré toutes les années rayonnantes des Warriors grâce à lui, parce qu'il leur a fait clairement passer à un niveau inimaginable après la période Mark Jackson. Je trouve que c'est un mec en or aussi, ça n'a aucun souci. J'ai juste l'impression, là, vu qu'on juge en 2024, qu'il est à bout de souffle, à court de ressources et d'idées, notamment parce qu'il y a cette fidélité pour les cadres, pour Draymond Green, avec lequel d'ailleurs, alors, certes, on peut considérer qu'il y a peut-être un manque de cadre, mais ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils se pourrissent la tête tous les deux dans le vestiaire tous les ans. Et donc, je pense qu'il est, il est dur avec Draymond. Mais ça n'explique pas tous les soucis qu'il y a eu. Je pense juste qu'il est un tout petit peu à bout de souffle et d'idées, d'énergie. C'est quelqu'un qui avait quand même laissé entendre que sa carrière serait assez courte au coaching quand il avait ses problèmes de dos et qu'il n'était pas sûr de pouvoir se réinventer une fois la fin de l'épopée incroyable terminée. Donc là, j'ai un peu peur qu'on en soit arrivé là et que ce soit compliqué pour lui l'étape d'après. Peut-être qu'il reste encore une bonne saison ou deux à ce groupe avec Steve Kerr, avec cette façon de jouer qui est si incroyable. Mais j'ai l'impression que voilà, je ne le prendrai pas aussi aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il touche un peu une sorte de fin de cycle. Et je ne sais pas ce que ça donnerait ailleurs aussi parce que c'est tellement particulier. Il avait un personnel, un roster qui a finalement été assez taillé pour ce qu'il voulait mettre en place sur le terrain.
Fred, toi, quel est ton point de vue sur... ça peut être sur Steve Kerr en général, mais notamment sur la gestion de groupe. Je suis curieux de savoir comment tu vois ça, toi.
Bah, En tout cas, moi, Steve Kerr, c'est l'un de mes entraîneurs préférés en NBA. Vraiment, j'ai adoré tout ce qu'il a pu apporter aux Warriors. Et justement, il a été très créatif sur ses premières années, aussi parce que il sortait d'une période chez les Suns où il a quand même, il s'est nourri un peu de toute cette philosophie. Il se nourrit en fait d'un peu tous les entraîneurs qu'il a eu. Il a eu Popovich, il a eu Phil Jackson, donc. Vraiment, on pouvait voir des principes un peu de chaque entraîneur dans ces Warriors à lui. Et malheureusement, comme dit Shai, c'est vrai que en 2024, on a l'impression qu'il est à bout de souffle. Moi, sa gestion, globalement, je la trouve bonne. Je la trouve bonne parce que avoir un Draymond Green tous les ans, je pense qu'il y en a, il y a plus d'un qui aurait craqué. Il a failli d'ailleurs craquer hein, une ouais. fois. Je crois qu'il l'avait dit dans un podcast. Il n'en pouvait plus en fait. Il n'en pouvait plus, mais je trouve qu'il a toujours su le gérer à comme il peut être géré, Draymond Green. C'est-à-dire qu'il n'est pas facilement gérable et Steve Kerr se débrouille assez bien, plutôt bien, j'irais même bien, parce qu'il n'est pas, c'est vraiment un personnage quoi, ce Draymond Green. Donc moi je trouve qu'il faut pas, voilà, c'est dommage de garder en tête cette année-là, parce que cette année elle est pas loin d'être catastrophique. Il ne faut pas oublier que les Warriors ont gagné un titre il y a 2 ans, deux saisons seulement, et qui pouvait miser vraiment sur eux au moment des playoffs. Il n'y en a pas beaucoup, et en tout cas, moi je trouve que ça reste encore un très bon entraîneur. Après, oui, moi je pense qu'il a l'air un peu essoufflé, un peu fatigué. C'est son langage corporel, il le trahit un peu en ce moment. En fait, c'est juste ça. Moi je pense qu'il est loyal envers ses joueurs. C'est un groupe qui a tout connu. Et je pense qu'il est aussi très reconnaissant. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile, en fait, d'être dans une fin de cycle comme ça avec des gars avec qui t'as tout fait, t'as tout gagné, t'as tout connu. Et c'est toujours dur de dire au revoir. Là, c'est une chanson des Boys to Men. Mais... non, mais c'est vrai. Mais là où il m'a déçu, Steve Kerr, c'est avec les États-Unis là, sur la ouais. dernière compétition. Ouais. Et notamment, je pense, il y a une phrase qu'il n'aurait pas dû dire. C'est après la demi-finale, il a avoué qu'il n'avait pas scouté Obst, le shooter allemand. Pour moi, ça, c'est quand même une faute très, très grave. Comment les États-Unis, comment eux ne sachent pas que ce mec-là est un super shooter. Et le fait qu'ils le reconnaissent, peut-être que, tu vois, il est moins, tu vois, sur ses gardes. Peut-être qu'il est justement, il est plutôt sur... lui aussi une fin de cycle, peut-être qu'il lui faudra une coupure pour reprendre, mais en tout cas ouais, c'est éreintant. Il faut penser à ça, d'être dans une équipe qui gagne, une équipe qui a le statut de favori pendant une décennie, c'est usant mentalement, et ça donne encore plus de crédit à Greg Popovich, parce que là on est vraiment sur un gars qui a aussi connu une fin de cycle et qui a su se réinventer. Est-ce que Steve Kerr sera capable de faire ça? Je ne sais pas, mais en tout cas sur tout ce qu'il a apporté aux Warriors, tout ce qu'il a fait, je pense qu'il mérite une place dans le top 10 des coachs de NBA, même en 2024.
Allez, du coup, c'est toi qui va conclure le... Enfin, on s'est dit qu'on allait faire un top 15, donc il nous reste encore deux tours de draft, donc six, deux choix chacun. C'est ton tour de choisir, Fred.
Ok. Je vais choisir Rick Carlisle, parce que, pareil, on parle d'entraîneurs qui sont là depuis longtemps. Et lui, je trouve aussi admirable la façon dont il s'est adapté à son effectif, comment il a changé de philosophie. C'était quelqu'un qui était réputé pour la défense, et il a complètement changé de style. Et les Pacers, c'est devenu une machine vraiment à scorer. Et c'est admirable, quoi. C'est admirable. Moi, j'ai adoré aussi regarder les Pacers cette saison. Alors beaucoup vont râler sur le côté défensif, mais en tout cas le fait qu'il puisse être aussi quelque part pragmatique, qui mise à fond sur les forces de son équipe, il a fait les ajustements qui étaient nécessaires aussi pour leur faire passer un cap quand même, et leur assurer quand même une place décente, une place en playoff. Et là, ça se passe bien avec les circonstances qu'on connaît, mais en tout cas je trouve que c'est l'un des tout meilleurs coachs de NBA, avec énormément de bouteilles, avec une capacité d'adaptation qui est complètement dingue, et c'est l'un des meilleurs, tout simplement.
Il y a autre chose sur lequel il a évolué, ou en tout cas il a changé son image, c'est que par le passé, il était quand même identifié comme un coach qui donnait pas sa chance aux jeunes, qui arrivait pas à gérer même dans la communication avec les jeunes, ça passait pas. En gros, on disait, si t'es rookie et que t'as Carlisle, c'est mort, tu vas pas jouer. Et là, avec Indiana, enfin, il y a quand même des jeunes joueurs qui rayonnent depuis qu'il est là, et tu sens qu'il a, il a progressé aussi de ce côté-là. Donc, je suis d'accord, hein, il a changé d'approche. Ça montre une capacité à évoluer qui est impressionnante. Lui aussi, à un moment, on aurait pu se dire, à Dallas, là, il était cramé. Fin de cycle, changement de génération de coach. Enfin, ça aurait pu être une erreur d'essayer de le prendre à Indiana, et au final, il s'avère que c'est quand même un très très bon choix.
Ouais, je continue d'ailleurs d'être étonné que ça soit si mal passé sur la fin à Dallas. Je sais toujours pas bien ce qui s'est joué. C'est peut-être, ça a l'air d'être manifestement plus une question de relationnel, en fait, que ce soit avec Doncic ou Porzingis, qui manifestement il n'arrivait plus à encadrer. On sait pas trop pourquoi, mais ouais, ce qui est fou, ce que tu. Ouais, vas-y, Fred, ouais.
Non, mais après, c'est une forte personnalité. Du coup, je rejoins aussi ce que dit Shai. C'est un gars qui il était dur. Franchement, il était très direct. Hein. Avec Rondo, ça a été très direct aussi. Donc, du coup, je t'ai coupé, Théo, mais je voulais juste dire ça, que c'est un gars qui a de la poigne et qui, effectivement, donne l'impression d'avoir un peu évolué sur ça, justement pour permettre aux joueurs qui a à disposition, en fait, de rayonner, et c'est en train de bien fonctionner.
Ouais, non, carrément. Carrément. Allez, c'est ton tour, Shai. Avant-dernier pic pour toi.
Bon. Allez, je vais prendre mon gars Tom Thibodeau. Je sais que... Alors, maintenant, ça va un peu mieux, vu que les Knicks jouent comme ils sont en train de jouer et tout ça, sa cote est remontée un peu. Mais j'ai toujours adoré Tom Thibodeau. Le côté... Alors, il y a la personnalité, hein, c'est très, très particulier. On est sur un type qui a renoncé à toute vie de famille pour coacher... Qui est très dogmatique par certains endroits. On pourrait le croire has-been et pas adapté à l'époque. Au final, il avait juste besoin d'un groupe qui colle à sa vision du basket. Et j'adore ce que ça dégage, j'adore ce qu'il a apporté aux Knicks. Je trouvais déjà que ce qu'il amenait à Chicago, on peut dire, hein, oui, il a usé, cramé ses joueurs. Y en a qui vont dire que c'est à cause de lui que Derrick Rose est blessé. Je ne partage pas ce point de vue. À Minnesota, je pense que le problème est venu du côté de double casquette. C'est pas un GM, je pense, et il aurait dû se contenter d'être coach.
Ça marche quasiment jamais, hein, de toute façon, il faut être honnête. Quoi,
ça marche jamais, ça marche plus en tout cas. On a vu avec Doc Rivers, entre autres, même Greg Popovich a délégué. Hein, donc,
Stan Van Gundy aussi a été les deux.
C'est vrai. Ouais. Et ça fonctionne pas, donc ça, je le mets un peu de côté. Je le trouve encore incroyable sur le plan tactique, sur la défense, ce qu'il arrive à insuffler à ses équipes. Je trouve que c'est assez unique, et j'avoue que j'aime le côté par endroit. Il me fait penser à Bielsa en foot, tellement il mange vie que pour le basket. Il passe son temps à regarder que des vidéos de matchs qui n'ont aucun lien ni intérêt par rapport à la ligue dans laquelle il coach, mais j'aime ce côté entier, et je me doute que ce serait problématique avec plusieurs équipes. Il pourrait pas coacher n'importe quelle équipe. Mais j'aurais envie de lui bâtir une équipe comme Leon Rose lui a bâti là, avec des mecs des morts de faim et qui laissent leur ego de côté, qui sont prêts à jouer ensemble pour la cause collective. Voilà.
Ouais, c'est marrant parce que j'allais justement te poser la question, est-ce qu'il ne te fait pas penser à Bielsa?
Oui, c'est ça, forcément. Il y a ce côté-là qui me plaît, ouais.
Parce qu'il a ce côté aussi très dans sa bulle, et le côté aussi où il rince les joueurs.
C'est clair que faire une saison pour Tom Thibodeau, c'est comme ça en effet. C'est comme les années en chien, tu dis, genre une année humaine, c'est 6 années en chien, ça vous 7, je sais pas. Si... Je pense que c'est un petit peu la même pour Thibodeau. Par contre, c'est vrai, moi j'ai cru qu'il était has-been à un moment, je me suis dit, il a été novateur avec la défense quand il était assistant de Doc Rivers à Boston, spécialiste de la défense, avec cette strong side défense très forte là, qui crée un mur. Ça a vraiment permis tout simplement à Boston de dominer faire deux finales NBA, de prendre un titre sur 3 ans. Après, dans la foulée, en fait, juste après cette innovation, il y a les Warriors avec le tir à 3 points, le jeu sans position qui a fait que cette défense ne pouvait plus fonctionner. Je me suis vraiment posé la question de savoir s'il allait pouvoir se réadapter, se réinventer. Je ne sais pas s'il s'est réinventé. En tout cas, avec New York, ça fonctionne. Quoi. Ça, c'est indubitable.
Ouais.
Allez, écoutez, alors, à mon tour, moi je vais prendre un coach qui a été champion NBA relativement récemment. Je vais prendre Nick Nurse parce que toujours sur ses, cette question de pouvoir s'adapter. Voilà, j'adore, comme ce que vous disiez l'un et l'autre sur Will Hardy ou Marc Degnaud, ces coachs qui n'ont pas peur de tenter des choses nouvelles, même si ça ne se fait pas du tout de casser un peu les codes. Ce qu'il a pu faire avec les Raptors, j'ai adoré en fait sortir des boîtes, des choses vraiment que personne d'autre ne pensait à faire. J'ai beaucoup aimé ça et le début de saison incroyable des Sixers, encore une fois je le redis, moi jamais j'aurais cru qu'il arriverait à faire adhérer Joel Embiid à ce projet avec une équipe qui semblait sur le papier diminuer après le départ de James Harden sans réelle compensation. Là aussi je pense que ça dénote les qualités d'un entraîneur qui non seulement a des idées mais aussi a la capacité de les faire accepter par ses joueurs et de leur proposer des choses qui fonctionnent. On verra jusqu'où iront les Sixers dans ces playoffs. Là pour l'instant ils sont menés 3-1, mais en tout cas voilà, moi je trouve que c'est vraiment un super entraîneur, passionnant aussi quand on l'entend parler, si vous avez l'occasion de l'entendre parler un petit peu de son parcours, ouais. Quand il était entraîneur-joueur en Angleterre, alors des championnats certes qui ne sont pas aussi prestigieux que l'Euroleague, mais de son propre aveu qui lui ont permis d'expérimenter tout un tas de choses, pas par choix, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens en fait. Il est forcé parce que tu as des joueurs qui sont blessés, faut que tu fasses avec ton seul pivot qui est absent 3 semaines, et puis il faut que tu trouves des choses tout simplement. Donc ouais, j'adore ce côté un petit peu MacGyver de Nick Nurse.
Ouais, c'est vrai, je partage ce que tu disais sur le début de saison. Là, il a trouvé des choses, il arrive à. Je pense qu'il a réussi à se mettre aussi Embiid dans la poche, notamment au début. C'était pas gagné. Il faut se rappeler qu'Embiid, on était sur une phase où il menaçait à demi-mot de demander son trade d'un moment si ça lui convenait pas. Et donc, tu arrives en poste et tu te manges ça comme pression. Et même les ressources en l'absence d'Embiid, je trouve qu'il a eu des ressources. Il n'y a pas eu que Tyrese Maxey, hein, tout ce qui est autour, la façon de jouer fait que les Sixers auraient pu ne pas être du tout en play. Enfin, c'est ça qu'il faut se rendre compte, que ça, c'est une performance. Et ce qu'il avait amené avec les Raptors, c'était fort aussi. Hein, tu as raison, champion NBA, tout un tas de choses qui font que ça a fonctionné, que c'est un coach à la fois moderne, mais qui a aussi des réflexes un peu old school parfois. Je suis d'accord, c'est un très très bon coach de la Ligue.
Moi, je partage votre avis, vos avis, et juste une réserve au niveau du relationnel pour le
coup. Ah ouais, c'est le problème.
On sait qu'à Toronto, c'est là où il y a eu un peu, un petit problème là-dessus, et avec l'équipe du Canada aussi. Ça s'est pas forcément bien passé avec les joueurs, et c'est aussi pour ça que Fernandez a été promu à sa place. Donc, c'est la seule réserve que j'ai, parce que moi je partage ton avis Théo, j'aime beaucoup ce qu'il propose d'un point de vue purement tactique, et donc voilà, j'attends de voir aussi, c'est vraiment cette partie-là, on peut pas vraiment savoir ce qui se passe, donc moi c'est ma réserve avec lui, c'est juste par rapport à ça quoi, par rapport à son relationnel.
T'as raison. D'ailleurs, j'avais été assez surpris finalement de voir comment ça s'était passé à la fin aux Raptors, parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui fuitaient, on ne se rendait pas forcément compte. Effectivement, c'est intéressant. Juste sur le développement de joueur, une dernière chose sur Nick Nurse, la qualité de passe de Joel Embiid cette année et le fait simplement qu'il ait accepté de rentrer dans ses principes de jeu un peu nouveaux et de lâcher la balle, je trouve ça très fort, parce que là aussi, ça veut dire Joel Embiid a fait confiance à son coach quoi. Et c'est pas simple hein, quand t'arrives dans une situation comme ça où ta star elle est en train de râler, il y a le deuxième meilleur joueur en théorie qui a exigé son trade, et tu dois essayer de dire en plus à ton gars ouais, mais on va mettre en place un style de jeu qui est très différent, tu vas lâcher la balle mais ça va être payant. C'est pas si simple que ça de convaincre des joueurs comme ça quoi. Ouais. Allez, on part sur le dernier tour de notre draft. Trois derniers spots pour figurer dans notre top 15. Lourde responsabilité pour toi, Fred. Je fais un petit récap. Allez, un petit récap de là où on en est. Spoelstra, Michael Malone, Greg Popovich, Will Hardy, Marc Degnaud, Tyronn Lue, Jamal Mosley, Ime Udoka, Steve Kerr, Rick Carlisle, Tom Thibodeau, Nick Nurse. Voilà notre top 12 jusqu'à présent. Il ne reste plus que trois spots de libre.
Eh bien, je vais sortir mon joker.
Ah.
Peut-être, alors c'est peut-être un peu de triche parce qu'il n'est pas en NBA, il ne coach pas en NBA. C'est Tuomas Isalo, l'entraîneur finlandais du Paris Basket.
Paris Basket, ouais.
C'est exceptionnel, vraiment ce qu'il fait cette saison. J'ai jamais autant en fait adoré, aimé regarder une équipe jouer au basket. Vraiment, vraiment. Et dès le premier match, en fait, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était différent. Et c'est très très fort. Enfin, le fait que moi, de l'extérieur, je puisse voir ça dès le premier match. C'est qu'il y a un truc qui se passe. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tuomas Isalo, c'est un coach, donc ancien joueur professionnel finlandais, qui a coaché en Allemagne avant. Il coachait en 3e division. Il a commencé en 3e division, il me semble. Et il est monté progressivement. Il a coaché Bonn. Et avec Bonn, il a tout gagné, quasiment Coupe d'Europe. Et alors, championnat, je ne sais plus. Il me semble qu'il le gagne. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'il atterrit là, cette année au Paris Basket et il a tout changé. Donc, Paris Basket est 2e du championnat. Ils ont gagné l'Eurocup. Récemment,
ils ont plus perdu depuis 1997 aussi.
Ouais, ils sont à 22 victoires de suite, il me semble, en championnat, qu'en championnat, parce que du coup, je sais plus trop, mais en tout cas, voilà, une série incroyable. Mais ce qui en fait fait sa particularité, c'est que déjà au niveau des rotations, toutes les 3-4 minutes, il y a des changements, en fait, et c'est incessant. Et lui, il a un côté aussi Bielsa dans le sens où en fait, il est très 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 exigeant. Et ces entraînements sont très, très, très durs. Les joueurs doivent se donner à 200%. J'ai eu des échos aussi parce que voilà, j'ai mes petites connexions. Il est très, très dur. Il est très, très dur. Il est capable d'arrêter un exercice si ça ne lui plaît pas. Et vraiment, il a ce truc et on le sent en fait. Quand tu vois le Paris Basket jouer, tu sens ce truc-là. Et je me demande, moi, si j'étais GM, je miserais sur un gars comme ça. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans les codes de la NBA de faire des choses comme ça, mais c'est tellement innovant, en fait, que je me demande si ça marcherait pas en NBA, ça. Justement, avec une jeune équipe, des mecs qui jouent, l'équipe tourne toutes les 4 minutes. Enfin, c'est pas les 5 qui sortent d'un coup. C'est bien vraiment sûr. Des ajustements pour que les gars soient tout le temps à 200%. Et défensivement, c'est toujours la même défense. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même défense, toujours la même attaque. Les trois mêmes systèmes qui sont joués à l'infini, mais parce qu'en fait, il y a des lectures qui sont différentes selon l'adversaire. Et c'est ce qui rend le Paris Basket, en fait, si fort. C'est qu'ils arrivent à s'adapter tout le temps, à faire les bonnes lectures. C'est le meilleur offensive rating au-dessus des Boston Celtics. Ils étaient en Eurocup, ils étaient à plus de 126 points marqués sur 100 possessions. Enfin, que les Celtics étaient à 123. Donc, c'est un truc complètement ouf. Et comme je disais, leur défense est aussi exceptionnelle parce qu'ils font ils step. Alors, ils sortent fort. Il y a l'intérieur qui sort fort à chaque fois. Mais le mec qui est derrière, celui qui défendait sur le porteur de balle, au lieu de sortir en prise à deux, lui, il va juste gêner la passe pour l'intérieur qui roule sur un pick and roll. Donc là, c'est un peu difficile à expliquer comme ça parce qu'on n'a pas forcément les images. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours la même défense. Et c'est vraiment, il agresse tout le temps l'équipe adverse. C'est de la défense tout terrain sur 40 minutes. Je suis essoufflé là. Mais c'est le truc qui transpire de cette équipe, c'est l'intensité. Et vraiment, c'est exceptionnel. Donc moi, si je devais miser sur un jeune entraîneur aujourd'hui, je miserais sur Thioma Cisalo
Tu peux être sûr que les franchises NBA vont regarder. Enfin, ça fait plusieurs années maintenant qu'elles donnent leur chance à des coachs non américains, en tout cas, même si ça s'est pas toujours bien passé entre les Kokoskov et les compagnies. Enfin, on sait qu'il y a maintenant, c'est très regardé. S'il a un style de jeu moderne, enfin, il y a pas de raison. C'est marrant quand tu as commencé à parler.
Ouais. C'est juste que ces entraîneurs-là ont eu ils étaient assistants d'abord en NBA. Ouais. C'est très rare quand même qu'ils débarquent d'Europe et qu'ils les prennent.
C'était ce qui était très spécial avec David Blatt, qui avait tout de suite été, qui était passé de l'Europe au statut de head coach. Mais tu as raison de le souligner, c'est extrêmement rare. C'est la seule fois même de mémoire, je pense, que c'est la seule fois que ça s'est produit.
Et du coup, Shai, qu'est-ce que tu voulais dire parce que
C'est marrant parce que quand tu commences à parler Paris Basket, je me suis dit, il va dire Kenny Atkinson, qui est pas en. Je pensais que c'était ça le Joker, pas en poste, mais qui a un lien avec le Paris Basket et qui aurait très bien pu aussi figurer parce que c'est un très bon coach qui est assistant. C'est marrant, c'est une carte Joker intéressante. De toute façon, on en entend parler. Moi, forcément, je regarde beaucoup moins le championnat français et les ligues européennes, mais forcément, avec ce qu'a fait le Paris Basket récemment, je m'y suis intéressé. Et je pense comme toi qu'il a un bel avenir, que ce soit en France, c'est cool hein, qu'il reste en France un peu plus longtemps, il vient d'arriver. Mais
j'aimerais bien qu'il reste un peu plus longtemps, effectivement.
Mais il aura des opportunités.
Il est vraiment très très bon, quoi. C'est vraiment le truc, c'est à voir. Il faut le voir, il faut voir le Paris Basket jouer au moins une fois, rien que pour l'expérience. Parce que vraiment, c'est une expérience.
Non, en tout cas, super choix. Juste, on va repréciser qu'effectivement, on a pris les coachs NBA. Il y a tout un tas de techniciens hors normes en Europe qui n'ont rien envié avec aux 12 joueurs, aux 12 coachs qu'on a sélectionnés jusque-là. Voilà, bien sûr, on accepte totalement ton joker, Fred. Mais simplement pour re-spécifier, nous dites pas, si vous nous dites, ouais, mais il tout dit, s'il est meilleur que machin, on vous croit sur parole. Là, on était vraiment sur les coachs NBA. Mais par contre, ça sera intéressant de voir, effectivement, si après une expérience en Euroleague, avec Paris, on le souhaite en tout cas, on l'espère. S'il ne sera pas
c'est
vite,
c'est bon.
Ouais, oui, ben
Ils
voilà.
seront en Euro-League.
Mais si après une expérience de ce type-là, il ne
Ah
sera
oui.
pas appelé par une équipe NBA, d'autant que voilà, on sait que le Paris Basketball est détenu par l'ancien GM des Timberwolves, David Kahn, donc on sait qu'il y a des connexions aussi qui doivent se faire de ce côté-là, quoi.
Ouais,
c'est sûr.
Shai, quel est ton dernier pick, ton dernier choix?
Eh bien, moi, je vais prendre Jean-Denis Choulet. Non, je
Il est
plaisante.
dispo pour le quiz,
Il est
écoute,
dispo.
Jérémy.
Alors, allez, il reste des gros noms quand même, hein, c'est chaud. Hein.
Ouais.
Il y a des gros noms qu'on n'a pas pris à se faire insulter, mais faisons-nous insulter jusqu'au bout. Je vais prendre Taylor Jenkins de Memphis, dont je pense qu'on a oublié un peu les capacités, les compétences avec. Bah, tous les problèmes qu'il y a eu à Memphis dernièrement et qui sont, de mon point de vue, pas de son fait. Mais quand le groupe n'était pas dysfonctionnel à cause de certains individus ou de blessures, je trouve que ce qu'il faisait, c'était excellent. C'était vraiment excellent. Défensivement, c'était très, très fort ce que faisaient les Grizzlies. Pareil, ce côté où on instaure une culture, un groupe qui a peur de personne. Alors là, il y avait une identité d'emmerdeur, clairement, hein, et il n'y est pas pour rien. Il les a. Renforcé dans cette envie de développer cette personnalité. Mais juste sur le plan du basket, moi j'aimais ce que proposaient les Grizzlies pré-Jamorant incident. et je pense que là, j'ai beaucoup d'espoir sur ce qu'ils vont faire ensuite, une fois que tout sera remis d'équerre, si c'est bien le cas, comme je l'espère. Donc Taylor Jenkins, qui est ni un coach trop âgé, ni trop peu expérimenté, je pense que maintenant il a assez de bouteilles. J'aime beaucoup ce qu'il a fait jusque-là et je crois encore en lui. Donc voilà, je vais le prendre. Certes un peu bas, mais je vais le prendre quand même.
Il était dans ma liste élargie, Taylor Jenkins. On espère qu'il avait une bonne dose comment dire, d'ordonnance pour du Doliprane depuis 2 ans, parce que pour gérer ce groupe, et puis ça devait quand même pas être simple. Effectivement, mais tu as raison, il y a 2 ans, on en parlait comme d'un candidat au titre de coach de l'année. C'est un coach plus que compétent, carrément.
Et c'est l'arbre de Greg Popovich, hein, aussi,
Absolument, c'est
Taylor
vrai.
Jenkins. Alors, le grand Greg Popovich, hein, tout part de lui, hein.
Ouais.
Bah oui, non, c'est clair. Bah, on en parlait dans le MOOC Spurs qui est derrière moi, là, si vous nous regardez sur YouTube. Mais c'est vrai que on a un article dans lequel on parle justement de ce fameux arbre de Greg Popovich et des Spurs. Il n'y a pas que lui. C'est impressionnant quand tu vois le nombre d'assistants, de GM, d'assistants GM, de présidents de franchises qui sont passés à un moment ou à un autre par San Antonio. C'est quand même souvent d'ailleurs dans des franchises maintenant qui fonctionnent bien. C'est impressionnant, quoi.
Avec des cultures. C'est aussi le point commun, hein, qu'ont tous ces entraîneurs, c'est qu'ils sont vraiment inspirés aussi de ce qu'ils ont pu connaître chez les Spurs. Et Taylor Jenkins, bah, je partage ton avis, Shai, excellent aussi. Et le contexte actuel fait que bah, c'est sûr, on va moins en parler cette saison, mais ça reste un top coach.
Ouais. Allez, je suis embêté là parce que c'est mon dernier pick et je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Parce qu'en fait, moi aussi, j'avais un choix Joker, mais je sais pas si je vais partir dessus quand même. Et je vais vous dire quel aurait été mon Joker, mais je vais prendre un autre pick. J'étais très tenté de prendre Jordi Fernandez, le prochain coach des Nets. Alors, il n'a pas encore coaché en tant que head coach, mais je l'ai trouvé excellent avec le Canada. C'est manifestement un entraîneur brillant. Je pense qu'il a. Voilà, je ne serais pas du tout surpris qu'il soit vite très bon. Donc, c'est pour ça que ça aurait été un peu un Joker, parce qu'il est coach officiellement, mais il n'a pas encore coaché. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que pourra donner Brooklyn, quoi qu'il arrive, et notamment avec cet entraîneur. Moi, je vais quand même prendre Quinn Snyder en 15e. Un choix, alors, effectivement, en playoff, ça n'a pas marché avec Utah. Effectivement, cette année, Atlanta était l'une des grosses déceptions pour moi du championnat. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient ce type de résultat. Malgré tout, je trouve que c'est quand même un entraîneur brillant en termes de compréhension du jeu et en termes de. Même si effectivement la saison d'Atlanta me donne pas du tout raison, mais en tout cas ce qu'il a pu faire en tout cas avec Utah, j'avais trouvé que c'était assez fort finalement d'arriver à créer une équipe de saison régulière. Je le concède, ça marchait pas en playoff, ça pouvait pas, je pense, marcher en playoff vu l'effectif, mais en tout cas de créer une identité de jeu forte, trouver des principes qui permettent en saison régulière encore une fois, ben à l'équipe d'être performante, à ses meilleurs joueurs de s'exprimer et de rayonner. Voilà, je trouve aussi qu'il s'est. J'ai bien aimé le parcours, quoi. Il est passé par le CSKA Moscou. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui s'est inspiré de beaucoup d'entraîneurs. C'est quelqu'un de brillant, je pense. Voilà, 15e, ça me semble pas honteux, même si effectivement j'anticipe un petit peu, mais toutes les critiques qui pourraient être faites autour de Quinn Snyder, et je pense qu'il y en a d'ailleurs qui sont justifiées, ça je l'entends complètement.
Ouais, j'étais un peu déçu. Moi aussi, c'est quelqu'un que je tiens en très très haute estime, et c'est, il m'avait poussé à mettre les Hawks dans le top 5 de l'Est dans mes pronostics. Donc, en dehors de cette saison, on va voir si c'est un accident ou pas, parce que je pense qu'il n'aura pas le même roster à disposition à la rentrée. Peut-être quelque chose qui est plus proche de ce en quoi il croit et du style de jeu qu'il aimerait pratiquer. Donc, j'étais un peu déçu par cette saison-là, mais c'est quelqu'un que je tiens en très haute estime, qui arrive à faire du très bon travail partout où il passe. On a vu à Utah, il a transformé le Jazz. Rudy Gobert sait ce qu'il lui doit. D'autres joueurs savent très bien ce qu'ils lui doivent. Et à Atlanta, sur la courte période sur laquelle il est arrivé la saison passée, on avait vu des progrès. On les a moins vus cette saison, mais je pense que c'était une parenthèse. Voilà, et que l'année prochaine, on va retrouver quelque chose de très sérieux et solide du côté de Quinn Snyder.
Est-ce que vous avez des mentions spéciales des entraîneurs qui pour vous étaient dans votre liste, peut-être qu'il y en a qui étaient dans votre liste des 15, je sais pas, Charles
et Fred. Ouais, il y en a pas mal, enfin, hein, il y a quelques coachs que j'avais rayés entre guillemets sans leur manquer de respect, mais que je ne considérais pas éligibles à cette liste. Mais sinon, je veux dire, on n'a pas mis le coach de l'année dernière, Mike Brown, qui est quand même un bon coach. On n'a pas mis Joe Mazzulla, qui vient de finir en tête de la Ligue.
J'ai failli le mettre en joker aussi.
Ouais, moi aussi, j'ai réfléchi.
C'est pareil, on en parlait un petit peu avec Shai. Je pense qu'il est dans une situation qui est pas aisée, en fait. De toutes les interviews que j'ai pu entendre de lui, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a une réflexion très intéressante sur le basket. Et limite, tu sais, comme un de tes premiers picks, Fred, tu disais sur le potentiel, je le pense que c'est un jeune entraîneur. Je pense que c'est un entraîneur qui a vraiment du potentiel, et j'espère, quoi qu'il arrive. Alors, si les Celtics sont champions cette année, il n'y aura pas lieu d'être. Il pourra poursuivre sa carrière d'entraîneur à Boston plusieurs années encore. Mais si jamais ça ne devait pas aller au bout, j'espère que ça ne ralentira pas, du moins que ça ne mettra pas un stop à sa carrière d'entraîneur. Parce que je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Il a le potentiel d'un très bon entraîneur, je pense. Mais t'allais parler de lui, Fred, aussi.
Ouais, non, bah parce que je l'avais dans ma liste aussi, et j'allais souligner exactement la même chose, c'est qu'on ne l'ait pas mentionné alors que il a fini en tête, hein, finalement au ranking cette saison avec son équipe. C'est peut-être un délit de sale gueule aussi, et ça joue en fait là. Ce que tu renvoies en fait au public, ça joue. Il a l'air un peu dans son monde, un peu renfermé. Il est très, c'est difficile en fait de il nous charme pas, en fait. C'est pas quelqu'un qui va te charmer, en fait. Mais c'est un passionné de jeu. Effectivement, j'ai lu pas mal d'interviews, écouté pas mal d'interviews de lui. Il est très intéressant. Il est allé à Manchester City pendant la trêve du All-Star pour justement discuter avec Pep Guardiola sur la philosophie. Il s'intéresse à plein de choses. C'est vraiment un quelqu'un qui est très ouvert. Il est très sur les statistiques aussi. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Boston est l'équipe qui tire le plus à 3 points de la Ligue. Il a un rapport aussi aux chiffres qui est prononcé, mais je pense aussi que dans ce qu'on dit, dans ce podcast-là, nos choix ici, ils reflètent aussi nos personnalités à nous, ce qu'on aime nous, et finalement, les coachs qui n'ont pas forcément... on parlait de Thibodeau tout à l'heure, c'est un peu ce truc-là, c'est un peu dur de... C'est pas forcément quelqu'un qui va t'attirer, en fait. C'est un personnage, c'est des personnages, et ça joue en fait sur la manière, en fait, même sur la notoriété, sur la reconnaissance, ça joue. La personnalité, ça joue. Donc forcément, on en a oublié certains parce que aussi il y a ce délit, hein, que j'appelle ce délit de sale gueule, mais il faut aussi avoir conscience d'un truc. On parle de la NBA, on parle forcément d'excellents entraîneurs, quoi qu'il arrive.
Bien sûr.
Tous ceux qu'on a oubliés sont excellents, et c'est la ligue d'excellence. Donc on en revient aussi à ça, quoi. C'est pas t'es bon ou t'es mauvais, c'est qu'il y a plusieurs nuances, c'est que tout le monde est bon. Donc forcément, sur un match de play-off, c'est des petits détails qui vont faire la différence, et l'entraîneur qui ne fait pas l'ajustement qu'on aurait voulu qu'il fasse, c'est pas forcément un mauvais entraîneur, c'est qu'il avait d'autres données en tête. Et de toute façon, l'entraîneur, il est obligé de faire un choix, il est obligé de choisir. Nous, on peut parler, on peut faire ce qu'on veut, mais on n'assume pas les conséquences. Lui, il assume les conséquences, donc il faut aussi avoir conscience de ça quand on parle des entraîneurs.
Non, mais tu as tout à fait raison. L'autre truc, c'est souvent, nous, on vient donner notre avis a posteriori. On vient dire, ça, ça n'a pas marché, il aurait fallu tenter autre chose, mais on n'est pas là avant le match à dire, non, on va faire ça et ça va marcher à 100%, ce qui est la responsabilité de l'entraîneur. Mais tu as raison de le dire, parce que c'est comme les joueurs, en fait. Il n'y a pas de mauvais joueurs en NBA. Il y en a 450. Il n'y en a pas un qui est mauvais. C'est le fameux truc de Brian Scalabrine qui dit, je suis plus proche de LeBron James que vous n'êtes proche de moi. Et il a 2000% raison. Donc voilà, ça s'applique aussi aux entraîneurs NBA. Fred, merci d'avoir été avec nous pour ce podcast. C'était un plaisir, comme à chaque fois, de t'avoir avec nous. On vous met les liens si vous voulez suivre Fred sur sa chaîne YouTube ou sur ses réseaux, comme d'habitude, Better Athlete, que ce soit sur YouTube ou sur tes réseaux. Je crois que c'est aussi la même.
Non, moi, c'est Young Frédéric. Simple.
Très bien. On vous met les liens, en tout cas, dans la description de cet épisode. Et n'hésitez pas à nous dire, ce que vous avez pensé de notre sélection, sachant qu'encore une fois, c'est sans prétention aucune. On n'était pas là pour distribuer les bons points. Mais dites-nous, en tout cas, s'il y a des entraîneurs qu'on a oubliés, ce que vous avez pensé un petit peu du classement global. Je vais peut-être faire un petit récap quand même du classement global. Je vous l'affiche aussi à l'écran. Donc, premier tour, Eric Spoelstra, Michael Malone, Greg Popovich. Deuxième tour de draft, Will Hardy, Marc Degnaud, Tyronn Lue. Troisième tour, Jamal Mosley, Ime Udoka, Steve Kerr. Quatrième tour, Rick Carlisle, Tom Thibodeau, Nick Nurse. Et dernier tour, Thomas Isalo avec le Joker de Fred, Taylor Jenkins et Quinn Snyder. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et nous, on vous dit à très vite. Ciao à tous.
Ciao.
Merci les gars. À bientôt.
Out there, and it's either play or get played.